Et oui, Jean-Marc, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour renouer la tradition d'avoir des invités en live. On est resté avec vous pendant toutes les fêtes de fin d'année à travers quelques best-of. On a pu réécouter les meilleurs moments des émissions avec Étienne Bonamy, Vincent Duluc, Raymond Coppa, Henri Émile ou Éric Boyer. On est ravis de continuer avec vous pour des invités en live. Et en plus, on va s'intéresser à un sport dont on n'avait encore jamais parlé et que peu de radios parlent, c'est les chiens de traîneau. On est ravis ce matin d'accueillir M. Guy Boutin, d'abord, un des pratiquants des chiens de traîneau.
Bonjour.
Oui, bonjour. Pratiquant de chiens de traîneau depuis quand ?
Depuis les années 90, ça fait plus de 15 ans, quoi.
D'accord, ok. Alors, vous êtes accompagné, vous allez peut-être vous présenter à tour de rôle,
Muriel.
Muriel, oui.
Oui, bonjour. Donc, moi, je pratique le chien de traîneau depuis 1998.
Vous êtes de la région, Muriel, non ?
Je suis de la région, des Yvelines.
Oui. D'accord, ça paraît fou. On fait les chiens de traîneau, on est de la région. C'est ça qui nous intéresse. Et puis ?
Et moi, Yvelyne Renard, j'habite aussi dans la région.
D'accord.
Et j'ai des chiens de traîneau depuis bientôt 20 ans.
Très bien. Et puis, on aura une petite interview de Jean-Jacques Lenôtre, le président de la section boxe française de Rambouillet, qui nous parlera de la prochaine manifestation organisée par son club sur Rambouillet. Ce sera le dimanche 20 janvier. Et ensuite, vous retrouverez Tribune Foot. C'est M. Claude Content, le président du district des Yvelines, qui sera notre invité. Et puis, on aura aussi Hervé Pelletier, le président de l'UFOLEP pour le foot à 7, qui viendra également nous parler d'un foot sans arbitre. Et oui, ça existe. On en parlera donc dans Tribune Foot entre 10h et 11h. Allez, tout de suite, la pub, la musique, et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. On va prendre notre attelage et parler de chiens de traîneau. On y va. Oui, et sur les 103.7, donc on a renoué avec la tradition des invités en live. On s'était quitté il y a 3 semaines avec la grosse émission de rétro et ensuite donc 2 semaines de best-of. Et puis la semaine prochaine, on parlera de pelote basse. Oui, donc on parle vraiment des sports dont on ne parle pas ailleurs sur l'antenne d'Herveux. Alors, monsieur, non pas Guy, mais Laurent Boutin, voilà. Monsieur Laurent Boutin, comment quand on est dans la région, qu'on habite en Eure-et-Loire comme vous, on arrive à devenir un pratiquant, ça paraît incroyable, de chien de traîneau. Allez-y.
Pour entraîner les chiens. Pour entraîner les chiens, un vélo, un kart, on a les chemins de forêt, on arrive à faire un peu de kilomètres.
Non, mais comment cette passion est venue ? Vous habitez l'Eure-et-Loire, vous avez pratiqué les chiens de traîneau ?
Ah, tout bêtement, en achetant mon premier husky, on s'est intéressé à les origines.
D'accord.
On dit, un husky, ça fait pour courir, tiens, pourquoi pas. Et on s'est intéressé, on a commencé tout bêtement qu'un vélo, et puis voilà, et puis de fil en aiguille. Et on a rencontré d'autres personnes, et puis on est entré dans le jeu avec le temps.
D'accord. Mais vous êtes affilié fatalement à un club des Alpes, non ?
Non, pas du tout. Des clubs, il y en a un peu partout dans toute la France.
Ah bon ? Donc quel est votre club ?
Le CPTC.
C'est-à-dire
le club performance de traîneau à chien.
D'accord, ok. D'accord,
qui est à Angers.
À Angers, d'accord. Donc vous êtes licencié au sein d'un club de l'Anjou, c'est ça ?
Voilà.
Tout à fait.
Très bien. Pareil, Evelyne ?
Oui, moi pareil. Nous faisons partie du même club.
Et vous, comment la passion est venue ? Parce que vous habitez Saint-Léger, donc vous êtes de la région. Comment quand on est de la région, on en arrive comme ça à se passionner et à faire des chiens de traîneau ?
Moi, j'ai commencé pareil, avec un chien. Je pense qu'on a tous commencé avec un chien.
Oui.
Je voulais un chien pour faire un peu de sport, pour courir avec moi, pour bouger.
Il y a des gens qui font ça, ouais.
Pour bouger, et puis un chien, deux chiens, trois chiens, et puis maintenant j'en ai 12.
Oh, 12 chiens,
donc,
d'accord.
Donc voilà.
Evelyne ?
Non, moi c'est Muriel.
C'est Muriel, pardon. Oui, pardon, c'est Muriel.
Moi c'est pareil, j'ai commencé avec un chien que moi j'avais récupéré à la SPA, puisque c'était un chien qui était en train de, entre guillemets, de devenir fou à la SPA, donc je l'ai pris, je l'ai sorti, puis comme les autres, de fil en aiguille, un chien, deux chiens, trois chiens, moi j'en ai 6.
D'accord, vous êtes licencié sous quel club ?
Le même club, au CPTC.
Ah, c'est pareil, oui. C'est bien.
Nous sommes tous du même club.
Très bien. Alors, comment on la vit cette passion au quotidien ? On mange, on dort, on
vit avec les chiens.
Ouais.
Enfin, en ce qui me concerne, mes chiens vivent à la maison, donc c'est au quotidien.
Alors, chaque chien a un nom, vous les connaissez, j'allais dire, sur bout des doigts.
Oui, c'est vrai que chaque chien a un nom, chaque chien a une personnalité très différente. Et c'est vrai que, on les connaît, quoi.
On reconnaît les chiens à leur voix aussi.
On les
connaît, oui.
D'accord.
On sait qu'est-ce qui pigne, qui pleure, qui veut quelque chose, qui réclame.
C'est ça qu'il faut. Ouais. Il suffit qu'un chien, effectivement, aboie la nuit.
Voilà, tout à fait.
Ou gémisse la nuit, on sait. On sait l'identifier.
À la maison, j'ai un appareil à bébé qui est à pied de mon lit. Les petits loups, certains loups sont en bas. Il y en a un qui vit à la maison, donc le chef de meute. Et quand la nuit, il y en a un qui pleure, je sais qui est-ce qui pleure. Bon, il y a besoin de quelque chose, je descends, j'interviens. Mm-hmm. Enfin, un petit pipi ou autre chose. Mm-hmm. Il sort, il rentre, il va se recoucher. Mais je sais, s'il y a quelque chose. Il y en a un qui a peur la nuit, quand il y a de l'orage, il pleure. Donc, il remonte, il dort sous mon lit. Il bouge plus.
Mm-hmm. Et... Alors, pour faire ce sport, faut d'abord, avant tout, aimer les animaux. Hein, et surtout les chiens. C'est le principal.
Ouais. Oui, tout à fait. Et le contact.
Ouais, le contact.
Le rationnel, surtout.
Mm-hmm. Ce sont des chiens de quelle race? Parce que ce sont les fameux huskies.
Nordiques.
Oui, nordiques.
Les quatre races nordiques, les huskies.
Ouais, nous, ce sont des huskies qu'on a.
Mm-hmm. Mais il n'y a que ces chiens-là qui peuvent faire le sport de chien de traîneau, non?
Ah non, il y a. Il y a quatre races nordiques. Le Samoyed, c'est un chien tout blanc. Mm-hmm. Ensuite, l'Eskimo du Groenland ou groenlandais, c'est le chien des expéditions polaires, on va dire.
D'accord.
Ensuite, vous avez le Malamute d'Alaska, le gros nounours. Alors celui-là, on l'appelle la locomotive des neiges parce qu'il est costaud, il peut tirer beaucoup, il tire une forte charge. Et le husky de Sibérie, donc c'est un chien qui est rapide. Mmh. Plus léger et rapide. Donc nous, c'est ce que nous avons comme chien.
D'accord. Et ce sont des chiens de même race qu'on est obligé de mettre par attelage. On ne peut pas mettre des chiens de race différentes sur un attelage. Ça peut se faire.
Ah si, la catégorie est pour courir est différente. D'accord. Mais bon, chaque chien court différemment, donc c'est difficile. Il y en a un qui va vite, l'autre va moins vite, mais peut tirer plus longtemps, plus lourd. C'est différent, c'est un travail, tout ça.
Alors, ce sont des chiens donc, qu'on a très jeunes, hein, très tôt, vous l'avez dit. Alors, ensuite, même, on les prépare à la compétition ou ça vient comme ça, naturellement?
C'est inné déjà dans le chien. Il sait qu'il doit tirer, mais on prépare le chien, bien sûr. Bien sûr, c'est un chien qui est préparé des petits. On lui apprend déjà gauche, droite, la base.
C'est-à-dire, vous avez eu des chiens, vous l'avez dit dès le début. Alors après, entre avoir le chien et puis le pas à la compétition, ça s'est passé comment? Vous l'avez dressé spécialement ou c'est venu accidentellement?
Le naturel vient tout seul.
Oui.
Il y a les gènes. C'est inné chez eux déjà.
Voilà, c'est la génétique, on ne peut pas dire autre chose.
D'accord.
Comme toute race de chiens, si on s'y penche, il y a une génétique derrière, comme le labrador qui fait pour un chien de canard, la chasse à l'eau. Donc le husky est fait pour avoir un harnais sur le dos. Certains huskies n'aiment pas ça, il y a des huskies canapés, mais pas beaucoup.
C'est pas mal ça l'expression. Muriel, je ne me suis pas trompé cette fois-ci.
C'est bien ça.
Même chose.
Oui, c'est vrai que c'est le chien qui fait que... on voit, par contre, on peut voir si un chien est plus doué pour aller devant ou pour aller derrière. Mm-hmm. Mais bon, c'est vrai que c'est inné chez eux. Hein, c'est ce qu'on appelle le will to go. Mm-hmm. Donc, c'est l'envie de courir et de tirer.
D'accord. Et à partir de quel âge on peut déjà les faire courir? 6 mois, 8 mois,
6 mois, c'est un
mois
peu jeune.
Ouais,
un jeune.
An. On attend un an.
De toute façon, pour faire une course, il faut qu'ils aient un an.
D'accord.
Mm-hmm. À partir de 6 mois... À partir de 6 mois, 7 mois, on peut commencer déjà à repérer le chien qui peut être le leader.
Oui.
Pour lui apprendre le droit de gauche, il commence à faire travailler. Mais juste à la laisse, droite, gauche, de faire des cures, on va dire.
D'accord.
Pour lui apprendre bien le travail. Après, c'est ce qu'il y a plus dur à avoir dans un attelage, c'est le leader.
Ouais, c'est ça. C'est une question que j'allais poser. Il y a fatalement un leader qui le dégage. C'est comme dans toute collectivité. Il y a des gens qui sont plus faits que d'autres pour mener un peu les autres. Chez les chiens, c'est pareil.
Oui.
Tout à fait.
Ouais. Donc ça demande une très grande philosophie, ça demande une très grande complicité. Hein.
Oui, il y a une très grande complicité parce qu'après, c'est vrai que le chien est toujours très près de nous et puis à l'écoute, même au travail, il est devant, il court. On arrive à l'intersection, les oreilles se replient, hop, il attend son ordre, non, devant, galop, droite. C'est une très grande relation. Mm-hmm. Après, il faut vraiment faut s'en occuper.
Bien sûr.
Il ne faut pas que le chien ne soit plus non plus pendant un certain temps en chenille et pas s'en occuper. Automatiquement, ça ne peut pas le faire au bout d'un moment.
Mmh. Donc ça vous prend combien de temps? Dès que vous avez un chien comme ça, vous le dressez, vous le formez, c'est un long travail quotidien quoi.
Le mieux en fait pour dresser un chien, c'est d'avoir un autre chien de tête. Et le meilleur apprentissage, c'est l'autre chien qui va le faire. Si on a un bon chien de tête à la base, il est capable de, entre guillemets, de dresser un autre chien mieux que vous. Mmh. Il y a tel qu'un autre chien pour dresser un chien.
Ce qu'on appelle un débourrage, quoi.
Ouais.
Comme pour les chiens.
Et c'est souvent un chien un petit peu plus âgé qui va s'occuper du nouveau, quoi.
Alors, pour ceux qui seraient ce matin intéressés, qui se seraient découvert une passion subite pour les chiens de traîneau, ça coûte cher quand même au départ, un husky. Ou un chien de voué au chien de traîneau.
Oui, enfin, c'est comme toute race. Hein, ils ont, il y a, Il y a un minimum. Bon, après, ça reste, il y a une moyenne à faire, mais bon, je pense que tous les chiens de race ont, ont un coût. Donc, ouais. Les huskies sont pareils que les autres races.
Il y a peu, ouais, pas
en moyenne, c'est un chien qui coûte combien?
Dans les 700, 750 euros.
750 euros.
Donc, si on veut un chien qui, en plus, après, puisse faire déporter, et puis d'autres chiens, 750 euros.
Mmh, environ.
Ouais, mâles, femelles, ils peuvent courir, ça pose pas problème.
Non, aucun.
Ouais, là, c'est mixte. Ce sont des compétitions mixtes. Alors, ensuite, on s'affilie quand on veut franchir le pas et puis donc faire donc ce sport en compétition. On s'affilie obligatoirement à un club.
Un club et à une fédération, oui.
Oui. Oui. Donc, c'est la fédération française de pulka et de traîneau à chien.
Voilà.
C'est quoi le pulka?
La pulka, c'est une petite barquette que tire le chien, alors à la neige, que tire le chien. C'est la petite barquette qui est derrière et qui est lestée sur les compétitions. Donc il y a un poids qui est, que doit faire cette pulka. Et sur terre, bon, c'est un petit bricolage que l'on fait, mais c'est une avec des roulettes. Donc le chien tire la barquette.
Comme un petit sulky en fait.
Et la, la personne court à côté. Mais le chien doit tirer quelque chose. Le husky est un chien de trait, faut pas l'oublier.
D'accord. Il y a beaucoup de clubs recensés en France, parce que on en parlait ce matin, c'est quand même assez incroyable. Il y a des, on n'est pas obligé d'habiter en montagne pour pratiquer ce sport. Quoi. Il y a des clubs partout. Quoi.
Oui, il y a des clubs partout, et je dirais que la grande région parisienne est la région où il y a plus, le plus de mushers.
C'est-à-dire
Alors le musher est la personne...
C'est pour le grand public.
Oui, oui, bien sûr. Ouais. Le musher est la personne qui dirige le chien.
D'accord.
Donc c'est le chef de meute, le grand chef de meute.
Le chef de meute, le chef d'orchestre, c'est ça,
oui,
en quelque
voilà,
sorte.
Oui.
Vous êtes le chef d'orchestre.
Oui.
Et alors, donc, à partir de quel âge on peut commencer à cette compétition en tant que musher? Dès qu'on est ado, on peut, si on a des chiens, on peut s'en sortir.
Oui, la catégorie est différente, mais on peut à partir de 6 ans, 8 ans, on commence... en minime. Ensuite, la catégorie change, le nombre de chiens aussi, parce qu'un petit ne peut pas courir avec beaucoup de chiens, bien sûr.
Ah oui, donc on peut commencer très tôt. Quoi.
Oui, oui, bah souvent les parents...
Même mineur, on commence mineur...
Catégorie baby, comme on dit.
Oui, d'accord. Oui, oui. Enfin, c'est... Oui, oui.
On sait à peu près le nombre de clubs recensés ou le nombre de pratiquants
en France ? Il y a une vingtaine de clubs, à peu près,
plus, je pense.
20-25 clubs.
Ouais.
Et des personnes licenciées, il y en a autour de 450-500.
D'accord. Ok. Donc, avec une fée. Est-ce que c'est un sport qui coûte cher? Est-ce que le coût de la licence est...
Le coût de la licence, je pense 50 euros à peu près. L'inscription au club. Bon, le tout revient à peu près à 100 euros par an. Mais il faut pas oublier que le chien n'est pas une machine. Mm-hmm. C'est un entretien tous les jours, de la nourriture tous les jours, les frais de vétérinaire.
Bien sûr.
Les vaccins, enfin, c'est plein de choses.
Ah oui, parce que ça, faut dire, c'est, il faut être à jour dans ses vaccins.
Ah bah bien
sûr. Est-ce qu'on peut empêcher un chien de prendre le départ s'il n'est pas à jour dans ses vaccins?
Bien sûr, bien sûr.
Nous avons des contrôles vétérinaires assez stricts. Hein.
Oui.
Mm-hmm. Bon, tous les vaccins, comme pour tout le monde.
Il y a un contrôle, oui.
Ouais, obligé.
Alors, une question qu'on pose souvent en sport, il y a des contrôles antidopage.
Oui.
Est-ce qu'il y en aurait qui auraient l'idée de...
Oui, des contrôles antidopage. On n'a jamais eu l'occasion d'en voir. Mais on a entendu parler.
Oui. Sur les grandes courses, oui, certainement.
Oui, parce que bon, ça se fait malheureusement dans le sport hippique, donc j'imagine qu'il y a peut-être des mauvaises arrière-pensées aussi dans les chiens de traîneau. Hein.
L'avantage en France, bon, il y a des courses pratiquement tous les week-ends dans toute la France, mais il n'y a pas grand-chose à gagner, si ce n'est que bon, une coupe et un sac de croquettes.
D'accord.
Donc pour ça, c'est très bien. C'est très bien parce que...
Oui.
Il n'y a pas d'argent en cours.
Pour ça. Hein, oui.
Non, il n'y a pas d'argent en cours, donc c'est très bien pour ça. Ça reste...
Il faut que ça soit vraiment une passion.
Une passion, voilà.
Voilà.
Alors une saison, ça dure de quand à quand?
Alors la saison terre démarre de mi-septembre à mi-décembre. Ensuite la saison neige jusqu'à fin mars. Mm-hmm. Bon, il y a les dates de report s'il y a besoin, parce que maintenant l'hiver, on a de plus en plus de difficultés à trouver des stations avec de la neige. Nos courses de chiens de traîneau se font quand même en basse altitude.
Ouais. Vous, c'est l'inverse, il peut beaucoup neiger, ça pose pas de problème.
Voilà.
Par contre, s'il neige pas, effectivement, ça pose problème. Quoi.
Et ensuite, la saison reprend jusqu'à... Enfin, il y a quelques courses encore
mi-avril.
Jusqu'à mi-avril.
D'accord. Alors, il faut quand même se le dire, hein, il y a des compétitions sur Terre, contrairement aux idées reçues. Quoi.
Ah, donc bien sûr.
C'est une saison qui dure longtemps. Par exemple, quelles sont les épreuves qui se déroulent avec des compétitions sur Terre?
Vous avez un championnat de France.
Oui.
Un championnat de France qui se déroule toujours début décembre. Mm-hmm. Donc
et qui change de région.
Et qui change de région.
Ça change de région.
Quelles sont, par exemple, les régions qui ont été traversées ces dernières années là?
Ben, cette année, c'était ça se passait dans le à Saint-Pardoux. Non.
Non, Lac de Chour.
Lac de Chour cette année, dans le département de la Côte d'Or.
Ah oui, donc.
Ouais. Et l'année dernière, c'était à Saint-Pardoux, donc c'était la Haute-Vienne.
Et donc un calendrier qui est préétabli donc oui. Au départ. Quelles sont les épreuves les plus importantes? Alors, est-ce qu'il y a des championnats différents au niveau des terres ou de la neige et des catégories à part, ou c'est un mélange de tout sur l'ensemble d'une saison?
Non, le championnat.
C'est un peu comme par exemple l'athlétisme avec le cross-country et puis les compétitions sur piste, ou est-ce que on mélange tout le monde?
Non,
marche par catégorie en fait.
Oui.
Ça va du petit attelage au plus gros quoi en
D'accord.
fait. Ouais.
Mm-hmm.
Donc nous ça marche comme ça. C'est tout le monde court soit en carte soit sur la terre. Tout le monde court soit en carte soit en vélo. Mais ça marche par le nombre de chiens en fait notre catégorie.
D'accord, donc il y a des championnats de France de chiens de traîneau en compétition terre, voilà,
ouais,
c'est ça
ce que
je vous demandais,
voilà.
Et l'autre en neige.
C'est
complètement des titres séparés, distincts,
ouais.
Y a pas, pourrait y avoir, comme pour les rallyes par exemple, dans les rallyes des épreuves en Finlande et puis des épreuves au Portugal, et puis
ouais,
qu'on fasse un total sur l'ensemble de la saison quoi.
Non, chez nous, ça se passe pas comme ça, non.
D'accord, ok. Alors, vous allez nous en dire un peu plus. Comment ça se passe pour une saison? On s'inscrit dans une compétition. Après, on choisit ses dates, on marque des points en fonction des championnats, des calendriers. Ça se passe comment?
Début de la saison, on a effectivement un calendrier. On sélectionne les courses que l'on veut faire.
Vous payez d'abord pour ces courses?
Oui. On paye pour courir. Par contre, c'est gratuit quand on vient nous voir.
Bon, y a un droit d'engagement, quoi. Ça couvre quoi, l'assurance, ouais. Tout ça, non?
Les frais de piste, l'assurance, et puis
les frais du club organisateur
aussi, puisque voilà. Donc, on s'y inscrit généralement 8 jours à l'avance.
D'accord. Oui, il y a une date limite, quoi.
Oui, toujours.
8-10 jours.
Parce qu'en plus, on est obligé d'envoyer les papiers des chiens pour tout ce qui est vétérinaire avant.
Oui,
donc.
À la DSV, au service vétérinaire.
C'est pour ça qu'il y a une date limite.
D'accord, c'est très strict. Alors ensuite, donc, compétition. Vous êtes combien en moyenne par course?
Ça dépend des courses, peut aller de 50 attelages à 90.
Ouais, voire plus de 100 même.
Ouais. Oui.
Selon la réputation de la course.
Voilà.
Il y a des sites qu'on aime bien et il y a beaucoup de monde, tout le monde s'y retrouve en début de saison, puis les courses qu'on aime moins bien, moins sélectionnées selon le parcours.
D'accord. Alors après, dans les attelages, il y a combien de chiens par attelage? Parce que là, on peut aussi avoir différents. Je crois qu'on peut avoir différents attelages. Hein. Je crois qu'il y a plusieurs spécialités. Hein.
Oui. Donc, ça commence avec, comme disait Evelyne tout à l'heure, avec la poulka, c'est-à-dire que c'est une personne qui court derrière le chien.
D'accord.
Il y a également le canicross. Donc, c'est pareil, sauf que le chien ne tracte pas de petits sulky. Après, nous arrivons aux catégories vélo. Donc, vélo un chien, vélo deux chiens.
D'accord.
Et après, nous passons aux cartes. Donc, ça commence aux cartes de chiens et ça peut aller sur terre jusqu'à 8 chiens.
C'est vous qui spécialisez les chiens. Est-ce qu'on peut, par exemple, être à la fois un chien qui participe à des épreuves avec 8 chiens et puis être un chien qui participe à des épreves pulka, par exemple?
Oui.
Ouais. Oui, ils peuvent faire dans une même journée ou un même week-end?
Ah non.
Ah non. Voilà, c'est ça que je veux savoir.
Non. Le chien ne participe qu'une fois dans la journée.
Il y a une course, mais il peut sur l'ensemble de la saison.
Contre, après, il peut être mis dans différentes catégories.
Alors justement, le chien, on le sélectionne comment dans l'attelage? Parce que chaque chien a un rôle précis, un rôle particulier, a une place particulière.
C'est le plus dur. C'est le plus dur de trouver.
C'est au travail.
Oui.
On voit moi j'ai vu courir. M'entraîner sur l'entraînement ne sert qu'à ça, c'est voir le chien comment il se comporte en travaillant. Moi j'ai vu m'arrêter, enlever un chien, le déplacer, le mettre à un autre endroit. Ah ça va pas, on fait 1 km ou 500 mètres, on détache, on met à une autre place. Il y a fois on passe beaucoup de temps le matin à entraîner les chiens pour trouver le bon emplacement. Parce que bon c'est comme tout, il y a un chien il va bien se comporter à droite. Comme il va bien se comporter, mal comporter à gauche. Donc on le déplace, on remet. Et après, quand tout se fait, c'est comme tout se rôde. Après, on trouve le bon feeling. Après, l'entraînement se fait. Et après, le bon leader.
Mais ça, c'est peut-être des années et des années de préparation, non?
On peut pas. Je sais pas si on peut dire des années de préparation.
Ou des mois de préparation.
Voilà.
Des mois de tâtonnement, dirons-nous.
Quand on a un jeune attelage tout neuf à faire, oui. Quand l'attelage, il est fait, on l'a juste à atteler et faire le travail. Mm-hmm. Après, c'est bon, début de saison, nourriture, musculation, tout ce qui suit derrière.
Mm-hmm. Hein. Et Allez, une question qu'on peut poser comme ça derrière le poste. Est-ce que les chiens, entre eux, est-ce qu'il y a des chiens qui n'arrivent pas à s'entendre? Comme pour les êtres humains.
Tout à fait, comme pour les êtres humains, tout à fait.
Des chiens qui peuvent éventuellement se battre ou ne pas s'apprécier ou... Ça doit pas être facile.
Oui, ils se tolèrent.
Voilà.
Ouais, il y a des toujours parfois moi j'en ai deux qui se en début de saison, il est temps d'aller travailler parce que ils viennent assez chauds, on va dire. Donc avec début septembre, il faut vraiment qu'ils aillent travailler un petit peu pour se défouler, ils ont du mal à supporter.
Et mâle femelle, ça pose pas de problème. Vous avez que des
mâles. Moi j'ai que des mâles.
D'accord, OK. Hein? Ouais. Muriel pareil, non?
Moi j'ai deux femelles et quatre mâles.
Oui, et alors ça va? Ça s'entend bien?
Je touche du bois, je n'ai aucun souci, tout le monde s'entend bien à la maison.
Pas obligé de faire d'arbitrage?
Non,
ou...
non, tout le monde s'entend bien.
Ouais. Evelyne?
Et moi j'ai trois mâles et donc neuf femelles, ouais. Mais toutes mes femelles sont opérées.
D'accord.
Donc ça réduit beaucoup les risques de bagarre.
Oui, parce que ça joue malheureusement.
Oui. La nature reprend toujours le dessus, donc j'ai préféré limiter les dégâts. Et, bon, tout le monde s'entend bien, mais pour arriver à ça, c'est beaucoup d'années de...
Oui, voilà.
Beaucoup d'années de travail.
Ouais, d'observation.
J'avais parlé des...
Oui, beaucoup d'observation.
Je parlais d'années de préparation, oui. Hein, mais c'est sûr que...
Il faut savoir tenir le chien. Je veux dire, on ne commence pas avec des huskies ou des nordiques, parce que ils sont bien tous pareils pour ça. Hein. Mm-hmm. Comme ça, il y a vraiment... Il faut savoir y faire.
Et vous êtes un peu la chef d'orchestre, de danser un chef d'orchestre finalement. Hein.
Oui, bien sûr.
Vous êtes obligé de coordonner tout ça. Hein.
Oui.
Alors s'il y a un chien qui défaille, qui est malade, qui malheureusement décède ou se blesse, c'est tout.
Ça remet la meute en question souvent, tout, surtout si c'est un chef de meute qui disparaît. Ouais. Oui.
C'est là, tout qui est mis en l'air, quoi.
Ouais.
Un chef de meute qui disparaît, c'est bien une très grande observation si on a un risque de bagarre, parce qu'il y aura toujours, comme pour le loup, quelqu'un qui va leur reprendre la relève, on va dire.
Il faut un chef.
Ouais. Moi, je sais, dans le mien, le jour où mon chef de meute partira, je sais lequel qui va vouloir prendre le relais. Mais il y en a d'autres qui ne vont pas l'accepter.
Donc ça c'est à vous de...
Oui, voilà, de mettre Léo là et observer pour que ça se passe bien, surtout.
Et on peut être carrément, finalement, absent d'une compétition. S'il se passe un pépin dans la semaine, on peut prendre forfait en disant « je ne suis pas prêt, quoi. L'attelage n'est pas prêt ».
Ah oui, tout à fait, les chiens d'abord.
Toujours
le chien d'abord.
Sur une course, c'est toujours
le chien, le chien.
C'est le plus important, c'est toujours le chien d'abord.
Vous les emmenez combien de temps avant sur une compétition? Vous partez le vendredi soir pour la compétition?
Oui, on finit une autre semaine comme tout le monde. Hein, le vendredi soir, on prend la route et puis voilà. Donc les courses terre, c'est bien parce qu'elles ne sont pas trop loin dans notre région. Donc on tourne une moyenne de 250 km environ autour de chez nous. Hein, et puis après, on rentre le dimanche, on prend la route pour prendre le travail le lundi matin.
Alors, il y a une façon de les préparer. Est-ce qu'ils sentent qu'ils vont aller en compétition?
Oui.
Tout à fait.
Le matériel, on bouge.
Voilà. Oui. Voilà, moi-même, quand j'ai mon véhicule à l'entreprise, c'est simple, le vendredi matin, ils sont dans le véhicule, ils ne bougent pas de la journée. J'ai du mal à descendre pour qu'ils aillent faire pipi. Ils savent qu'il y a la remorque derrière, ils vont partir en compète.
Alors, bon, on l'a dit, hein, ce sont des athlètes de haut niveau, pratiquement, hein, comme pour les chevaux, comme
tout
pour les
fait.
Êtres humains. On les prépare au niveau de la diététique, au niveau du physique, au niveau du mental. Comment vous arrivez à vous entraîner? Parce que si ces chiens ne bougent pas la semaine, comment ils vont pouvoir, comment dire, entre guillemets, se défoncer le week-end?
Justement, le plus dur, c'est de trouver du temps pour les entraîner. C'est pas facile. Donc, l'heure de midi ou le soir après le travail, l'arme frontale dans la forêt. Et leur faire même juste un entretien, c'est 3 km, ça suffit. Comme on fait des courses de sprint, ça suffit. Après, bon, l'alimentation, croquettes, viande, poudre de ceci, poudre de cela pour entretenir le chien. Mais c'est vrai qu'un entraînement régulier est mieux que courir une fois tous les 36 du mois, on va dire, pour éviter d'esquinter le chien. Parce qu'un chien qui ne travaille pas ou qui travaille régulièrement, et c'est comme un sportif, on risque de faire un claquage, d'esquinter une pinte. Qu'un chien qui est entraîné régulièrement, c'est que du bonheur après.
Bien sûr. Hein? Et cette transition entre la terre et puis la neige, ça pose problème. Il y a des chiens qui sont peut-être plus adaptés à la terre.
Non, c'est juste le point de repère. Ouais. Le point de repère, parce que la neige est blanc. En forêt, il y a les chemins, ils ont les points de repère pour pouvoir tourner à droite, à gauche. Quand on arrive sur la neige, on a malheur d'avoir rencontré une route, ils ont tendance à aller sur la route. Mais juste pour la première course, après c'est fini. Hein. C'est le temps de premier kilomètre, ça part, après rouler jeunesse, comme on dit.
Alors, dans les compétitions, aussi bien en terre qu'en neige, elles sont combien les distances parcourues? Elles sont...
Les distances sur terre, c'est 5, 6 km, voire 7 km.
Donc tout de suite, il faut être à fond, quoi.
Alors, ça, ce sont
c'est un gaz.
Ça, ce sont les courses de sprint.
Ah ouais. Là, tout de suite,
Hein. Et ensuite, il y a les courses sur neige de moyenne distance ou de longue distance. Mm-hmm. Donc, moyenne distance, c'est 20 km. Okay. 20 km le samedi, 20 km le dimanche. Bon, à partir de 6 chiens, il y a une dizaine de kilomètres en plus. Mm-hmm. Et les longues distances, ce sont des courses de 30 km deux fois. Donc.
D'accord, ok.
Donc, on n'entraîne pas le chien pareil.
Voilà, c'est pas le même entraînement.
On peut pas faire.
On ne peut pas faire du sprint et après faire du mi-distance. On se focalise sur le type de course qu'on veut faire pour toute sa saison.
D'accord.
Mais bon, il y a aussi un âge. Hein. Ça arrive à un certain âge, je ne vais pas dire de bêtises. On ne peut plus faire de sprint. On va dire on fera, mais on ne fera pas le résultat. Mm-hmm. Donc on peut se mettre à la mi-distance ou longue distance après. Mm-hmm. Après, avec un nombre de chiens aussi.
Mm-hmm. Ouais. La durée moyenne d'un chien de traîneau.
Tout est dans la tête.
C'est combien?
C'est le mental.
Compétition, c'est le mental.
C'est le mental. Disons on arrive à faire du résultat encore avec un chien jusqu'à 8 ans, on va dire.
Oui.
Ouais, après, c'est le mental. Hein. Ouais. Mais un chien peut courir jusqu'à 10 ans, 11 ans.
Ouais, j'allais dire 15 ans, c'est possible.
Non, 15 ans, ils sont en retraite depuis un peu longtemps.
Il est en retraite, après, voilà. Il se repose.
15 ans, c'est un bel âge déjà.
C'est un bel âge pour le ski.
D'accord. Donc, vous l'avez dit, vous gagnez très peu d'argent dans vos compétitions. C'est que des coupes ou des sacs de.
Des lots, des sacs. Voilà, pour plaisir. Mm-hmm. Donc, c'est aussi le plaisir d'avoir les copains.
Oui, bien sûr.
Si on est tous de régions différentes, hein, parce qu'il n'y a pas que notre département, il y a aussi en Bretagne, il y a du côté de Nantes, il y en a partout. Hein,
Dans l'Est
aussi, beaucoup. Mm-hmm. Donc on se retrouve surtout en début de saison, on est content de tous se revoir, même les enfants, parce que
c'est
une famille qui se déplace.
Il n'y a pas un peu d'intox entre vous avant une course? Il n'y a pas un peu d'intox entre vous, entre copains? Il n'y a pas des gens qui disent, tiens, moi, tu vois, mon chien, ils sont mieux pas pareil, toi?
Oh, si, toujours, bien sûr.
Comme dans tout sport, je
pense. Oui,
Pour poser des questions.
Tout à fait.
Moi. Bien sûr.
Oui. Noyelle, il y a de l'intox?
Oui, enfin, bon, moi, je... Moi,
même entre les chiens qui ont d'attelages différents, ils se regardent, ils se disent, attends, je vais te montrer ce que je sais faire.
Oh, peut-être, mais bon.
Dans le langage chien, on ne sait pas, là. On ne peut pas.
Vous qui les connaissez très bien, qui les vivez, qui les sentez.
De toute façon, quand il arrive l'heure du départ, comme on est tous plus ou moins.
Un peu stressés, on va dire.
Stressés déjà, de la base aussi, beaucoup. Les chiens, ce qu'on appelle une stakeout, c'est-à-dire c'est une chaîne avec tous les temps de mettre, les chiens sont attachés l'un côté de l'autre. Mm-hmm. Donc, quand il arrive l'heure du chrono, les harnais sont mis sur le dos, nous on a les casques, ils le sentent qu'on va partir. Mais on part que de départ, sachant qu'un départ de course, c'est toutes les 1 minute, voire 2 minutes selon les catégories. Mm-hmm. Donc après, c'est le chrono qu'on est à nous de rattraper le concurrent, le copain qui est devant.
Bien sûr.
On va après bien le doubler, partir et puis vas-y.
Et vous leur parlez avant le départ? Il y a des chiens qui ont besoin qu'on leur parle, c'est un peu comme un sportif. Hein. Il y en a qui s'isolent, qui sont dans la chambre noire, et puis d'autres qui veulent qu'on leur parle. Est-ce qu'il y a des chiens qu'on
leur parle? Non, mais moi je sais que je vais toujours les voir avant de partir. Voilà, avant de prendre le départ, je vais voir chaque chien. Mais bon, je m'isole pas quand même, mais bon, je sais que sur la ligne de départ, je vais toujours les voir.
Moi, j'ai des chiens qui stressent, qui gueulent beaucoup, on va dire autrement, mais le plus dur, c'est de les calmer. Mm-hmm. Dans les 15 dernières minutes. Parce que plus le chien stresse, plus il s'énerve, plus il brûle les calories, donc c'est des vitamines qu'on perd pour courir, la puissance.
Et ils mettent combien de temps pour la récupération? Ils sont capables de faire 2-3 courses d'affilée comme ça?
Non.
C'est des manches.
On a une manche le samedi, une manche le dimanche.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est vrai que dans les.
S'il fallait faire le lundi, le mardi, il serait capable de.
Oui.
Après, il faut bien gérer au niveau de l'alimentation pour qu'il récupère. Il y a des courses qui sont là en ce moment, c'est la Grande Odyssée.
Oui, la Grande Odyssée.
Oui, on va en parler justement.
Automatiquement, ils courent tous les jours, les chiens. Non, après, c'est l'alimentation, tout ce qui suit derrière.
L'alimentation et l'entraînement.
Et l'entraînement aussi.
Là, il faut vraiment un gros entraînement.
Alors justement, les épreuves les plus importantes dans une saison. Alors sur la Terre, il y a les différents championnats, départementaux, régionaux et puis nationaux, non?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Chaque club organise une course dans sa région.
On n'est pas encore aussi structuré?
Non.
Non.
D'accord. Et pareil pour les compétitions sur neige?
Oui.
Oui, c'est pareil.
Chaque club organise, enfin des clubs de la montagne, on va dire. Parce que nous, ici, nous sommes des clubs de plaine.
Des terriens, comme on les appelle.
Mais donc à la montagne, les clubs qui sont là-bas organisent donc des courses dans leur station.
Mais il n'y a pas de championnat.
Il y a un championnat neige
officiel,
aussi.
Officiel, c'est ce que je veux dire. Ah oui, c'est ça. Il peut y avoir des championnats de France, des championnats.
Il y a un championnat de neige de sprint et il y a un championnat de neige de moyenne distance et de longue distance.
D'accord. Ok, avec donc des titres spécifiques bien établis. Vous, il y a quand même une grosse dépense physique quand même à tirer l'attelage.
Bah, en pleine compétition, c'est 50-50. Hein. C'est pour ça que quand on fait travailler les chiens la semaine, c'est eux qu'on fait travailler. Et là, bon, là, l'idéal, c'est de s'entretenir aussi, c'est courir un peu la semaine.
Il n'y a pas que les chiens.
Non.
Honnêtement,
pour faire des résultats, il faut aussi se dépenser derrière. Hein. C'est 50-50.
Donc, c'est-à-dire qu'on rentre d'une compétition, on est complètement out.
Ah oui.
Oui.
Ça, plus la route.
Plus la route.
Et vous partez avec des clubs de supporters. Il y a des gens que, dans votre entourage qui partent avec vous. Et
pas
puis
trop,
vont...
Non. Bah, vous savez, un week-end dehors, par un temps où il pleut, où il fait froid, où... Bon, c'est pas évident. C'est pas évident. Nous, on a l'habitude, donc c'est un peu difficile quand même d'avoir des personnes avec nous comme ça qui viennent. Par contre, il y a toujours beaucoup de public.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais poser comme question. Est-ce que dans les compétitions, il y a beaucoup de public qui vient vous voir? Déjà, parce que c'est spectaculaire. C'est les curieux aussi qui viennent.
Bien sûr.
Selon les régions aussi.
Oui.
Oui. Oh, bah, de toute façon, il faut faire beaucoup de publicité auprès du public dans la région. Donc, ça aussi, c'est tout un travail avant la course, pour les organisateurs. Et puis, en général, oui, et beaucoup de questions sont posées aussi. Les gens viennent voir les chiens.
Bien sûr.
Donc,
ils peuvent les caresser, il n'y a pas de problème.
Pas trop. On évite. Ouais. En général, on évite parce que les chiens sont dans leur, énervés, si vous voulez.
Ouais.
Donc, on évite.
Et alors, un jour, une compétition dans notre région, ça pourrait se faire, Laurent?
Ça peut se faire. Faut juste le plus dur, c'est avoir toutes les autorisations auprès d'une mairie, avoir un parcours. C'est toutes les démarches qui sont.
Et sur Terre, c'est quoi? C'est de la cendrée. C'est quoi?
Non,
c'est de la terre battue.
Chemin de forêt.
C'est des chemins de forêt.
Oui, tout à fait.
Chemin
de forêt. Hein.
Forêt, chemin dans les champs, mais oui. Pourquoi pas organiser une course dans la région?
Ce serait une bonne promo. On aimerait bien.
Mais c'est du boulot, mais on aimerait bien.
On aimerait bien.
Oui, comme ça, ce seront les montagnards qui se déplaceraient cette fois-ci. Et qui iraient sur Terre. Donc là, ce serait. Alors justement, les vitesses atteintes dans une compétition.
Selon les attelages, on peut monter
30 km/h.
Vitesse régulée. En pointe de vitesse, moi, vu monter 45 km/h.
Oui,
45 km/h.
Mais après, on redescend de 20 à 27 selon les parcours.
Et puis, naturellement, on va peut-être plus vite en fonction des sprints que sur les courses de fond. Sur les courses de fond, peut-être
les températures, le parcours. S'il a plus tout le temps, ben là, on s'entoure avec des terrains complètement délavés. Donc, théoriquement, on s'enfonce, on perd du temps. Mais un terrain aussi, par contre, il est bien gelé. Alors là, c'est royal. Les chiens y vont.
On ne part pas à la même vitesse sur un sprint que sur une moyenne distance.
Il faut
savoir gérer.
Gérer le chien.
Et là, c'est votre rôle.
Ouais, voilà. Mais bon, ça peut aussi être le rôle du chien de tête qui, généralement, le chien de tête sait pourquoi il va partir. Moi, je sais que ma chienne de tête, elle ne part pas à la même vitesse pour une course de sprint que pour une course de moyenne distance. Donc, à partir de là, elle va réguler tout l'attelage.
Ah d'accord, ok. Ouais. Bon, enfin, c'est quand même à vous de montrer
que
vous êtes Muriel, la patronne quoi, de l'attelage. C'est vous qui...
C'est vrai que c'est à nous aussi
faut
de leur faire comprendre.
Faut pas que le chien prenne le truc, quoi. C'est vous qui... Comme on dit, vous êtes la chef d'orchestre, vous coordonnez tout ça, quoi.
Ouais. Non, mais avec les miens, j'ai pas de problème, moi, donc...
C'est pour ça, des fois, de parler un peu avant les chiens, ça montre aussi que vous êtes un peu le patron ou la patronne, quoi.
Mais surtout, faut jamais rien laisser dégénérer, quoi. Faut toujours mettre un holà très vite, dès qu'on voit que ça... Il faut mettre le stop, quoi.
Et puis les chiens le sentent qu'ils ont fait une belle course.
Oh
oui, souvent oui.
De toute façon, dans tous les cas, qu'ils aient bien couru ou mal couru, il y a toujours la petite récompense, le petit câlin et le petit gâteau qui va bien derrière.
D'accord.
Oui. Ils ne savent pas, ils ont couru, point barre.
Ouais, pour eux, c'est la récompense.
Il n'y a pas de mauvais chien qui a mauvais mâcheur.
Ils ont gagné, ils ont deux gâteaux.
Voilà, dans tous les cas, ils ont gagné un gâteau.
S'ils ont gagné, ils ont deux gâteaux. La chaleur, ça va poser problème quand vous faites des compétitions là, sur Terre qui fait très chaud. Comment ces chiens? Parce qu'on dit qu'ils supportent toujours très mal la chaleur, c'est vrai?
Au-dessus de 15 degrés, on ne fait plus courir les chiens. Trop chaud, ils ont la truffe qui régularise la température. Hein.
Oui, mais de toute façon, aucune compétition n'a lieu au-dessus de 15 degrés.
Ah d'accord, ok. C'est-à-dire qu'on pourrait annuler s'il y avait une compétition l'été au mois d'avril, par exemple. On a parfois des mois d'avril où il fait très beau.
Oui.
On pourrait carrément annuler une compétition.
Oui, ou repousser. Ça s'est déjà arrivé, le départ sont repoussés plus tard dans la journée.
Ouais.
Ou plutôt, ou c'est avancé, plutôt le matin.
Oui, justement, les compétitions, c'est quand? C'est l'après-midi, c'est le matin
Le matin, généralement.
Généralement, au début après-midi même.
Mais c'est plus le matin qu'en milieu d'après-midi, quoi.
D'accord, ok. Et alors, donc, pour la neige, le report, c'est le manque de neige, le manque d'enneigement, essentiellement. S'il neige carrément, qu'on n'y voit pas beaucoup clair, on fait de la compétition.
Ah oui.
S'il y a pas de neige, il y a du brouillard, au contraire. Là, c'est,
ah oui.
Là, c'est.
Ah,
ouais, ouais, ouais. Mm.
La semaine dernière, on en a fait une, on était dans de la purée de pois, mais elle a eu lieu quand même.
Oui, au Mont d'Or, nous sommes partis donc au Mont d'Or. Et ben, y a eu une manche le samedi et il a plu toute la nuit après, donc la manche le dimanche a été annulée.
Pour nous c'était pareil, mais on était au Grand Bord, non, manche de nuit.
Oui.
Mais c'est bien passé, mais la nuit du samedi au dimanche, il a plu comme c'est pas permis, et les pistes étaient mortes. Donc, elles sont à la maison.
Ouais, on a fait un véritable exploit, c'est qu'on vous a calé pour dimanche, vous étiez un des rares dimanches en compétition, parce que vous êtes toujours sur la brèche et vous partez très loin, quoi.
Oui, il y a des compétitions tous les week-ends. Hein.
Oh, mais bon, entre la terre et la neige.
Il y a une saison, mais là
ce week-end. Mais l'été, ça s'arrête, juillet-août quand même.
Ah, oui, tout à fait.
Juillet-août, c'est repos.
Il n'y a pas de compétition. Là, c'est difficile.
On révise.
Il fait très chaud en plus. Alors donc,
On remet le matériel en état.
Oui, alors justement, je voulais qu'on parle un peu du matériel de l'attelage. C'est cher, c'est à la charge du pratiquant. En plus donc des chiens, en plus de la cotisation qui est de 50 €, vous avez dit, et la licence, est-ce que l'attelage est aussi à la charge du pratiquant et de la pratiquante?
Oui. Oui, oui. Et souvent, les cartes avec lesquelles nous entraînons les chiens, ce sont souvent des bricolages, on va dire.
Des cartes qui ont déjà du vécu.
Mais c'est vous qui les bricolez, c'est votre entourage?
Bah, c'est nos maris.
Mais parce que c'est comme pour quelqu'un qui fait de la compétition d'automobile.
Oui.
Il y a un mécanicien.
Oui, oui.
Voilà, c'est pareil, quoi.
Alors nous, nous avons un handler. On appelle ça un handler.
Voilà, d'accord.
Donc, qui est là pour le matériel, pour nous aider pour les chiens.
Et un bon handler, c'est très important.
Très important, un handler bien organisé.
Alors, est-ce qu'il peut y avoir du matériel qui casse juste avant la course qu'on répare en miracle? Parce que les mécanos automobiles le font, ça, dans les courses de rallye, ils font des miracles. Oui. C'est pareil pour les handlers?
Oui, ça arrive, une ligne de trait qui casse, un mousqueton, un pneu crevé.
Ça m'est arrivé début de saison. Ouais, je suis partie, c'est arrivé sur la ligne de départ, donc il a fallu changer de carte en 30 secondes.
Oui.
Donc je suis partie avec le carte à Evelyne au lieu de partir avec le mien.
D'accord, ok. Oui. Et là, il faut garder son sang-froid, il faut garder son nerf, et il faut surtout que
maîtriser les chiens.
Les chiens, c'est ça.
Oui, parce que les chiens, eux, sont partis.
Et puis les chiens leur sentent beaucoup, ils commencent à stresser encore plus qu'eux. Alors là, c'est.
Oui, si on sent que le chef d'orchestre, le maître ou la maîtresse.
Il panique.
Et Laurent, vous avez eu des anecdotes comme ça, non?
Non.
Il n'y a jamais eu de casse, tout ça?
Si, mais
c'est vous qui préparez en plus.
Moi, je contrôle tout moi-même, de ce côté-là. J'ai mon handler pour la course, mon épouse, et qui me suit bien, heureusement, pour moi.
Bah oui, je crois que c'est indispensable. Hein.
Elle gère bien tout. Parce que t'as au niveau du chrono, parce que moi je suis les chiens, le harnais, tout ce qui va derrière, et elle est au chrono. Combien de temps pour aller au départ du camion, au départ, si tu y revenir, tout est prêt, mais elle gère tout ça.
Mais vous avez quand même du matériel de stock, ou alors il y a des sponsors qui peuvent effectivement vous laisser du matériel. Vous avez des sponsors dans ce sport?
Non.
Je sais pas, il pourrait y avoir un fournisseur de croquettes, par exemple.
Avis aux amateurs, s'il y en a qui
Nous sommes preneurs.
Même pour le matériel.
Tout est de la récup.
Même pour l'attelage, c'est ça.
Un kart, c'est récupérer les roues mobilettes, remis en état, restauré, on change les roulements, on contrôle tout, on rachète, c'est marchand de cycles, tout ce qui est frein, tout ça, les gaines, et tout. On met à neuf, quoi.
Donc il faut s'occuper du matériel et puis il faut s'occuper des animaux, quoi.
Donc j'ai un kart de moi perso, j'ai un kart pour l'entraînement, j'ai un kart pour la compète, comme ça il ne souffre pour faire la compétition.
Et alors ce sport qu'on pratique dans les autres pays, c'est où ce sport qui est pratiqué dans les pays nordiques? Je suppose que ça reste un des sports majeurs dans les pays nordiques, hein.
Oui, mais vous avez des compétitions en Autriche, en Allemagne,
en Espagne, en
Danemark,
en Italie,
Portugal.
Il y a quelques années, il y a eu un club portugais.
Si, là, cette année, il y avait les championnats d'Europe au Danemark, donc il y a l'équipe de France, parce qu'il y a une équipe de France.
Oui, ça faut le dire, le grand public, on nous voit très peu d'images.
Oui. Il y a une équipe de France qui est partie donc sur une course terre au Danemark au mois de décembre.
Et alors, on vit très bien ce sport, ou alors ils sont vraiment très amateurs aussi, même arrivés au statut de l'équipe de France? Parce que là, il y a peut-être des sponsors qui rentrent en ligne de compte.
Pour les premiers, qui sont toujours premiers, oui, peut-être, oui, certainement. De toute façon, la recherche de sponsors est importante quand même. Parce que c'est quand même un sport qui coûte cher.
Oui, c'est pour ça. Je pense que ça doit pouvoir se faire pour certains et certaines, pour des régions. Je pense qu'il y a des sponsors qui doivent, peut-être surtout plus dans les pays de montagne, financer ce genre de compétition, quoi.
Je pense pas. Bon, un sac de croquettes par-ci, par-là, oui. Mais ça va pas très loin.
Ça va pas très loin.
Ça va pas très loin.
Non, ça va pas très loin. Peut-être un jour sport olympique. Après tout, dans des Jeux d'hiver, pourquoi pas.
Peut-être.
Ça serait bien.
Il y a eu des démonstrations, je crois.
Oui. Il y a eu des démonstrations là, au dernier JO. Mais peut-être. Peut-être. En Italie, oui.
Tout à fait.
À Turin, Il y a pas. C'est pas encore peut-être un sport assez pratiqué sur le plan universel pour peut-être en faire un sport donc olympique. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un sport dangereux? Est-ce que c'est un sport à risque? Est-ce qu'on peut carrément chuter, tomber,
se
faire mal?
On peut se faire mal.
On est quand même casse-cou.
Quand on va à 30 ou 40 km/h.
C'est vrai que quand on prend un tournant à 90 degrés, c'est de la glisse avec le kart. Je parle sur terre. Sur neige, les chiens, si on commence à freiner, après, quand on est à chrono, on perd du temps. Mais l'entraînement, c'est vrai que c'est.
Oui, Laurent est très chrono. Lui, il court, il ne fait que des courses de sprint et il court pour gagner. Donc c'est chrono.
Participer, se bien se placer.
Ah mais il a été champion de France quand même il y a 4 ans.
Il a pas
4
dit...
ans, ouais.
4
non,
ans.
Je reste modeste.
Justement, champion de France distance courte, c'est ça, non?
Oui, en sprint, champion de France, c'était sur terre.
Ah bah
c'était à Rouen.
Ouais.
Et ça passe vite les années déjà.
D'accord, ok. Donc effectivement, les chiens, on est obligé alors de les maîtriser. Parce que s'il y a chute, c'est aussi parce que vous n'avez peut-être pas su maîtriser l'attelage.
Ça peut être juste un aléatoire sur un parcours, une bosse, une ornière, une roue coincée, enfin le truc tout bête quoi.
L'abandon, c'est quoi?
L'abandon, un chien qui se blesse.
C'est
un coup de chaud sur un chien.
C'est vrai qu'on l'a dit au début de cette émission, mais dès qu'il y a un chien qui se blesse ou qui défaille, c'est tout l'attelage qui est remis en cause et là on arrête complètement.
On arrête, ou ça peut être le matériel qui casse. Ça m'est arrivé sur une course, il casse, cling, on monte double quelqu'un. Bon, j'ai dû arrêter, me coincer les cartes dans un arbre et puis attacher les chiens, puis il s'est passé, tout le monde passait, c'était fini. Ou une fois, un coup de chaud sur un chien. Donc là j'ai
détesté. Un coup de chaud sur un chien.
Mais il monte en température, mais une course il faisait un peu chaud. La température a changé sur le parcours. Les chiens, faut penser que quand on prend le départ, il fait une température 2. Puis en travail, les chiens montent en température comme pour nous. Et un chien qui a été dans ses limites. Donc j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un avec une laisse. Je me suis arrêté, j'ai posé le chien. Après je suis venu vite fait le chercher pour pouvoir le refroidir sous jet d'eau. Puis une piqûre avec un vétérinaire. Parce que quand il monte en température, faut quand même faire ce qu'il faut à faire.
Est-ce qu'il y a des accidents cardiaques des fois qui arrivent pour les chiens? Ça peut arriver dans une compétition, non? Ou quand même dans l'ensemble?
J'entends une fois.
Ce sont des chiens qui sont très bien suivis.
Normalement, les chiens sont faits pour courir et ont été entraînés. Donc ce genre d'accident ne devrait pas arriver. Mais c'est arrivé une ou deux fois, oui. Mais en général, on a toujours un vétérinaire. On essaie d'avoir un vétérinaire pendant la course. Ça fait partie, si vous voulez, de l'organisation.
Oui, c'est dans l'organisation. Oui. Donc, effectivement, il y a le vétérinaire et il y a des juges aussi.
On a le juge de
chronométreur.
Le chronométreur. Et puis, la personne qui nous fait le départ.
Le directeur de course.
Directeur de course.
D'accord.
Qui sont, au niveau de la FED, des personnes comme toi, Evine.
Oui, moi, je suis directeur de course.
Donc, elle a passé un diplôme.
On peut déclarer. Des attelages.
Pour plein de raisons.
Justement, quels sont les motifs? C'est-à-dire qu'on a
loupé un départ.
C'est-à-dire qu'on arrive en retard,
il y a
un temps imparti pour partir.
Départ, quelqu'un qui part toutes les deux minutes a une minute pour partir.
D'accord.
Donc, pareil, pour un départ toutes les minutes, il aura 30 secondes. S'il n'arrive pas dans son temps, il partira après. À la fin de la catégorie. Ensuite, il peut être déclassé pour un esprit non sportif.
C'est-à-dire qu'il a tassé un peu trop.
Insulté le musher concurrent de nos voisins.
Est-ce qu'il y avait un peu d'intox entre vous des fois? Est-ce que des fois on essaie de montrer
C'est comme partout. Comme partout et c'est ce que je vous dis. Heureusement, il n'y a rien à gagner. Donc ça, c'est bien pour nous. Dans les grandes courses à l'étranger, au Canada. En Alaska, tout ça, c'est différent. Là, il y a vraiment de l'argent en jeu.
Oui, c'est ça. Ça reste
des gens qui se déplacent avec un nombre de chiens qui courent avec des 14, une 14
de
chiens.
Oui, mais nous, nos chiens sont nos chiens. Je veux dire, ils font partie de la famille. On y fait très attention.
Bien sûr.
Donc,
On n'a pas la même vision de ce côté-là.
Bien sûr. Muriel, elle a eu de la chance, finalement, parce que le fait d'avoir un pépin juste dans l'attelage, ça aurait pu vous empêcher de partir.
J'ai eu de la chance de l'avoir avant de partir. Parce que ça serait arrivé 500 mètres plus loin, c'était trop tard.
Vous n'auriez jamais été dans les temps pour...
Non, non.
pour partir.
Non.
Mmh. Alors, l'équipement, il est comment? Il y a un équipement obligatoire, strict, réglementé, ou alors...
Casque et gants.
Les gants et les casques, casque, c'est obligatoire.
Et puis c'est souvent, on demande
d'avoir des manches,
d'avoir des manches longues.
Ouais.
D'accord.
Ça, c'est...
Mais sinon, il n'y a pas de... Bon, vous avez un numéro
Oui, nous avons des numéros de dossard. Avec des heures de départ qui sont données avec les feuilles.
Avec les feuilles, d'accord. Et l'été, pareil, où on peut s'habiller un peu plus légèrement
Il
l'été,
faut quand même que les bras soient protégés.
Oui.
Enfin, l'été, enfin, on court pas l'été.
Jusqu'à début avril, après
c'est fini. Ouais, c'est ça, ouais, enfin, l'été, quand je dis l'été, oui, c'est quand vous êtes sur Terre. Mais pour nous, c'est l'été par rapport au... Ouais. À ce que vous endurez l'hiver, quoi.
Ouais. Non, moi, je disais, le casque et les gants, je veux dire, c'est obligatoire, mais ça ne nous viendrait même pas l'idée de partir sans. Parce que c'est plus important aussi. Hein.
Ouais. Et donc très peu de blessures quand même. C'est pas un sport très. On peut se casser quelque chose.
Nous, ça nous est jamais arrivé, mais il y en a qui sont cassés.
Des départs de course, tu sais. Des chiens qui retournent directement la stakeout les chiens d'un côté et le bonhomme dans l'arbre, quoi.
Oui.
Ah ouais. Ouais. Ouais, effectivement,
on se rappelle bien.
Ou alors la clash sur le.
On a vu une succès de course justement à la queue leu-leu. Trois départs de course et les pompiers sur le côté. Et puis,
Trois accidents.
Trois accidents.
Les pompiers n'ont pas eu le temps de revenir, de repartir.
Ils étaient sur place.
La clash qui se retourne sur le chef d'orchestre
matériel qui casse, des faillances de matériel ou les chiens. Parce qu'on a un départ de course et parfois nous sommes situés, garés avec nos chiens le long du départ. Un peu plus loin, et les chiens disent pourquoi on va partir alors qu'on peut rentrer directement au camion. Donc le gars il se retrouve propulsé, il est rentré au camion, et donc les chiens à côté et le ballon dans l'arbre.
Les chutes sur terre sont quand même assez spectaculaires, plus que les chutes sur neige, parce que c'est pas le même.
Ça amortit un peu la neige quand même.
Mais la neige fait mal quand même.
Ça fait mal, mais la terre.
Allez, on va marquer un petit break. Alors, on va écouter Jean-Jacques Lenôtre, le président de la fédération de boxe française sur Rambouillet. La fédération, le président de la boxe française sur Rambouillet. Je veux à chaque fois le mettre président de fédération. Ça viendra peut-être un jour. Il organise donc une réunion de boxe sur Rambouillet, la troisième année consécutive, dimanche prochain, le 20 janvier. Alors, il est venu nous présenter un peu mieux ce que sera donc cette réunion du 20 janvier. Ça sera au gymnase du Vieux-Moulin sur Rambouillet. Jean-Jacques Lenôtre, bonjour, et d'abord bonne année.
Merci, moi de même, bonne année et tous mes meilleurs voeux aux auditeurs de RVE.
Alors Jean-Jacques, vous êtes ce matin dans nos studios parce que vous allez organiser pour la troisième année consécutive des compétitions départementales, ça sera le dimanche 20 janvier, donc la semaine prochaine, au gymnase du Vieux-Moulin. Troisième année consécutive, ça prouve que ça continue bien pour la boxe française.
Oui, tout à fait, on a eu un grand succès l'année dernière, l'opération se déroulait sur deux jours avec combat et assaut technique. Cette année, on remet ça sur le dimanche 20 janvier avec des assauts techniques le matin et des combats l'après-midi.
Alors pourquoi une seule journée et non plus deux comme par le passé ?
Cette année, nous avons préféré répartir, je dirais, les compétitions sur plusieurs clubs, plusieurs villes des Yvelines, dont Rambouillet, bien sûr. Il y aura Rosny-sur-Seine, il y aura des plaisirs, donc plusieurs villes vont accueillir différentes manifestations.
Alors, donc, ça va emmener combien de boxeurs, finalement, au total ?
Cette année, l'après-midi, il y aura 4 combats, et de mémoire, il y a une quinzaine d'assauts, donc ça fait une quarantaine de boxeurs, quoi.
Alors, on va donner le programme, à partir de 12h, donc, assaut technique, jeunes et adultes, ça veut dire que ce sont de véritables démonstrations ?
Alors là, ça va plus loin que ça, parce que dans les assauts techniques jeunes, ce sont en fait des qualifications départementales pour la sélection championnat de France.
D'accord.
Donc c'est une sélection qui commence au niveau département, qui va être après poursuivie au niveau de plusieurs départements, ce qu'on appelle les sous-secteurs, et après au niveau de l'Île-de-France, pour finir en championnat de France.
Et puis à 15h, une série de combats, un Créteilhomme, deuxième série.
Oui, donc ce sont des combats avec protection. Ce sont les premiers combats en général pour ces boxeurs-là. Ça va être peut-être leur premier, au mieux peut-être le deuxième combat, mais ils ont des protections, casque, protège-dents, protège-tibia, etc.
Alors on va rappeler que ça va très vite, c'est des rounds de combien de minutes ?
Alors au niveau des assauts, ce seront 3 reprises de 1 minute 30, avec 1 minute de repos entre chaque reprise. Au niveau des combats, ça va se dérouler sur du 4 fois 2 minutes, avec 1 minute de repos entre chaque reprise.
Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur, il faut être dedans tout de suite, dès le départ, dès qu'on monte sur le ring.
Oui, tout à fait, il faut être prêt, il faut être chaud, il faut tout de suite, quand on monte sur le ring, être à 180, prêt à partir. Il ne faut pas avoir de temps mort, il faut prendre le dessus. dessus tout de suite sur l'adversaire.
Alors est-ce que finalement les combats ne se gagnent pas justement avant, dans la préparation, avant de monter sur le ring?
En bonne partie, hein, ça se prépare physiquement et mentalement pour que le boxeur soit prêt à monter sur le ring. À signaler que l'année dernière, on a vu un boxeur de Rambouillet qui avait gagné son premier combat et il était fin prêt, je dirais, pour cette journée-là et à l'heure donnée, quoi, presque.
Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle journée? C'est la troisième année, hein, donc ça a permis de bien faire connaître votre sport. Ça plaît, il faut continuer, ça vous attire du monde?
Je pense que globalement, on en entend parler. Ça, tout au moins, ça nous fait connaître ce Rambouillet, même si ça ne nous attire pas grand monde. Bon, on finit quand même par être, 58-59 licenciés pour la troisième année consécutive. Mm-hmm. Donc c'est quand même pas mal. Mais ça nous fait connaître, ça faire savoir que ça et qu'on existe.
Et donc c'est complètement gratuit, hein,
Tout à fait, l'entrée est gratuite, il y aura juste peut-être une petite buvette pour que les gens puissent se restaurer, mais l'entrée est gratuite, le spectacle est entièrement gratuit.
C'est au gymnase de Vieux-Moulin, vous attendez beaucoup de monde, est-ce que c'est un gymnase qui est propice à la pratique de la boxe française?
Alors on attend à peu près, du moins j'espère, 300 personnes, quasiment comme l'année dernière.
Ah oui, quand même.
Oui, en tout, globalement, on a vu, je crois, sur la journée, sur le week-end, et en particulier le dimanche, beaucoup de monde.
Et donc les rambolitains, rambolitaines, hein, de votre club vont naturellement être peut-être plus que jamais concernés et motivés par ce dimanche de compétition.
Oui, tout à fait. J'espère que tous les membres du club seront présents afin de supporter leurs camarades, je dirais, au niveau des assauts et des combats. On peut signaler également le gymnase du Vieux-Moulin se prête très très bien à ce genre de manifestation puisqu'il donne une ambiance très chaleureuse et je dirais très, très boxe française en fait quand on regarde bien.
Comment se passe le reste de la saison? Il y aura des compétitions importantes qui vont venir dans les prochains mois?
Oui, tout à fait. Il y aura la suite des sélections championnat de France, hein, parce que je pense et j'espère que mes boxeurs vont passer, il n'y a pas de problème. Il y aura également des challenges Île-de-France en assaut. Hein, là, il y a deux tireurs qui sont présentés pour aller à cette compétition.
Jean-Jacques, ceux qui pratiquent donc le sport chez vous, hein, la boxe française, les 59 donc licenciés, sont tous de Rambouillet ou ça vient des villages aussi avoisinants?
Alors actuellement, cette année, on fait moitié-moitié, je dirais. Ah. Oui, sur les 58 licenciés, on est quasiment, 29 de Rambouillet, 29 de l'extérieur. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Bon, c'est pas grave, ça veut dire qu'il y a, du monde intéressé, et que ce soit les Rambolitains ou aux environs de Rambouillet.
Et beaucoup de jeunes filles aussi.
Cette année peut-être un petit peu moins. Ah bon, on est il y a quand même une quinzaine de jeunes filles. Hein. Ouais. Et à signaler qu'on a quand même des jeunes filles qui sont présentes également en sélection championnat de France. Et j'espère qu'elles vont avoir de bons résultats.
Très bien, ça sera le mot de fin. Merci. Hein. Et puis donc n'oubliez pas, dimanche 20 janvier, à partir de 12h, il y aura une belle après-midi de boxe française avec des assauts techniques dès 12h et des combats à partir de 15h. Merci Jean-Jacques, à très bientôt.
Merci beaucoup, au revoir.
Voilà, le rendez-vous est pris donc pour la section boxe française de Rambouillet, hein, avec son président Jean-Jacques Lenôtre. Il y aura donc une réunion du côté du gymnase du Vieux-Moulin la semaine prochaine. Ça sera donc la troisième réunion consécutive pour ce sport sur Rambouillet. Alors, on a tellement été bavard qu'on n'a pas parlé de la grande Odyssée, c'est l'épreuve phare hein, de l'année. Là, c'est le must. Hein. C'est ce qu'on fait de mieux, là.
Oui, la Grande Odyssée, c'est une épreuve qui se situe dans les Alpes.
Alors, ça fait rêver, en plus, le nom.
Bien sûr. Et puis, ce sont vraiment des mushers qui viennent du monde entier, mm-hmm. qui courent avec des grands attelages. Alors, souvent, ce sont aussi des éleveurs qui courent. Alors, nous avons quelques attelages français sur cette course, 5 ou 6, je crois.
Mm-hmm. Ouais, au moins, oui.
Donc ces épreuves se font sur une dizaine de jours, une bonne dizaine de jours. Donc une partie dans les Alpes aux portes du soleil. Donc là, ça c'est les premières étapes se sont terminées mm-hmm. samedi et les concurrents repartent cette semaine. Donc une épreuve tous les jours et un bivouac en haute montagne à la base polaire.
D'accord. Ah oui, parce que en compétition, vous dormez où? Vous dormez quand même à l'hôtel, non? Quand vous allez vous en compétition, ou vous faites un bivouac?
On peut appeler ça un bivouac, mais enfin on est de mieux en mieux organisé.
Dans le camion.
Oui, voilà. C'est dans le camion, dans les camping-cars. Oh. Alors c'est tout un...
Ouais. Avec les années, nous nous sommes équipés aussi.
Oui, ouais. Voilà.
On a commencé avec pas grand-chose, et puis maintenant, on a du matériel.
Et justement, il y a un ami donc, de Charnay-la-Ville hein, qui est parti dans la grande Odyssée.
Non, mais pas, non, il partait à la...
Il partait à l'étranger, il fait donc une course à l'étranger.
D'accord, ok. Mais il y a beaucoup de gens dans la région, il n'y a pas que vous, mais contrairement à ce qu'on peut croire, il y a beaucoup d'autres personnes de notre région, du canton.
Le musher est discret. Voilà. C'est qu'on avait un nombre de chiens, on ne veut pas gêner les gens, les voisins, parce que bon, c'est comme tout, on a droit à un nombre de chiens selon ce qu'on qu'on est du village, du coin. Hein. Donc on essaie d'être discret.
Alors surtout, hein, quand vous rencontrez un musher et puis un attelage, poussez-vous hein, dans la forêt.
Voilà, surtout que les gens qui se baladent, qui ont un petit compagnon à quatre pattes aussi, moi-même me trouvant dans la forêt de Rambouillet, je tombe nanné avec quelqu'un, je demande gentiment de pouvoir rentrer un peu dans la forêt, pouvoir passer, pour éviter les éventuels papins. Parce que quand nous sommes attelés avec quatre chiens, bon, c'est pas toujours facile. Les chiens vont travailler, mais ils sont toujours attirés par d'autres chiens. C'est toujours un esprit de meute. Donc ils acceptent pas toujours les autres chiens.
Ah, ça peut aller,
Donc autant éviter les pépins.
Ah oui, ça peut arriver jusque-là.
Tout à fait, tout à fait. D'accord. Même sur les courses, quand des courses sont organisées, généralement à l'entrée du site, on demande aux gens, les spectateurs, de ne pas venir avec leurs chiens.
Et pour un obstacle, on a le temps de freiner à temps, non
Ça dépend à la vitesse où on arrive.
Bah oui, non.
Ça dépend de l'obstacle aussi.
Oui, non, mais c'est sûr. Généralement, on arrive à s'arrêter quand même. On fait tout pour s'arrêter.
Bien sûr. Hein Très bien, bah écoutez, merci. Merci donc Evelyne, merci Muriel, et puis merci donc Laurent d'être venu.
Merci à vous de nous avoir accueillis.
Nous présenter ce matin cette activité sportive, les chiens de traîneau. Il n'y a pas beaucoup de médias qui en parlent, mais sur Hervé, on en parle. Voilà.
Merci beaucoup.
Allez, puis on va parler foot dans quelques secondes avec Tribune Foot. Allez, on vous laisse donc avec Monsieur Content et puis Monsieur Pelletier donc qui vont nous parler du district des Yvelines et puis d'un foot à 7 un peu particulier.